RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France. Christophe Cessieux.
Le Tour de France qui fait escale ce soir à Gap, au pied des montagnes, au pied des Alpes, que nous aborderons demain. On les a un petit peu abordés aujourd'hui. C'était une étape de moyenne montagne. Demain, contre la montre, après-demain, l'Alpe d'Huez à deux reprises. Ça va être énorme. La fin de ce Tour de France. En plus, il se passe tous les jours des choses sur le Tour de France. D'ailleurs, eh bien, on s'est interrogé tout à l'heure et on s'interrogera dans quelques instants sur la solution et la tactique à adopter pour Contador. Consiste-t-elle à faire chuter Froome? Eh oui, car aujourd'hui, eh bien, le leader du classement général est tombé de son vélo, poussé à la faute dans la descente. On en parle dans quelques instants avec toute la Dream Team, mais auparavant, le journal des sports, deuxième édition. Jean-Louis Tour est avec nous. Jean-Louis, on s'intéresse tout d'abord au Paris Saint-Germain, de nouveau très actif sur le marché des transferts.
Et oui, l'un arrive, l'autre part. Edinson Cavani a été présenté il y a quelques minutes. Vous avez pu suivre la conférence de presse en direct sur RMC. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, en a profité pour officialiser le départ de Leonardo. Le directeur sportif ne va pas attendre la fin du mercato pour quitter le club.
Donc aujourd'hui, c'était le dernier jour de Leonardo. Donc encore, je voudrais le remercier, Leonardo, pour son travail qu'il a fait lors de ces deux dernières années. On a toujours de très bonnes relations, tous les deux, c'est un ami. Et bon, je pense que la sanction était trop dure pour lui. Et je pense qu'il a pris sa décision et je respecte sa décision. Maintenant, on continue dans notre projet. Aujourd'hui, c'est le jour des Edinson Cavani. On ne change pas nos objectifs, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions dans les 4 ans à venir.
En guise de cadeau d'adieu, Leonardo a donc offert Edinson Cavani. L'avant-centre uruguayen a été présenté aux médias après 2 heures de retard. 64 millions d'euros, c'est le prix du transfert, un record. Et une association à venir avec Zlatan Ibrahimovic en attaque. Une cohabitation qui se fera sans souci, selon Cavani.
Ben, très bien, je la vois très bien. Je ne vois pas pourquoi je la verrais d'une autre manière. Je crois que Ibra, c'est un champion mondial. Et ça fait que pour un autre attaquant, c'est toujours un plaisir de jouer à ses côtés. Pour pouvoir gagner des titres, parce que c'est un vainqueur, il est habitué à gagner. Et ça, pour une équipe, c'est quelque chose de très positif, de très bon. C'est très bon qu'il soit avec nous. Et bon, maintenant j'arrive, moi, dans ce grand club. Et j'espère pouvoir former un bon duo d'attaque avec lui.
Edinson Cavani lors de sa conférence de presse tout à l'heure sur RMC. Dans le reste du mercato, Sébastien Schillaci a choisi Bastia pour son retour en France. Lui qui a 32 ans était en fin de contrat avec Arsenal, rejoint l'île de Beauté où il formera la défense centrale avec François Modesto. C'est bouillant à Évian entre l'entraîneur Pascal Dupraz et l'attaquant sur le départ Saber Khalifa. Ça fait 10 jours que l'on l'attend et toujours aucune nouvelle. Je n'ai aucun mot à dire sur lui, sinon ils seront trop acides. Vivement qu'il parte, a déclaré Pascal Dupraz. Carl Medjani, le défenseur de l'AS Monaco, c'est lui mis d'accord avec l'Olympiakos. Information RMC Sport, les deux clubs doivent désormais s'accorder. Autre information RMC Sport, Gaël Jivet est proche de s'engager en Italie, à Livourne et à l'étranger. Sergio Busquets a prolongé avec le FC Barcelone jusqu'en 2018 avec une clause libératoire désormais à 150 millions d'euros. Sur le Tour de France, c'est un Polonais, Alberto Rui Costa de la Movistar, qui s'est imposé en solitaire à Gap devant un trio composé de 3 Français. Toujours pas de victoire tricolore sur ce tour. À noter l'abnégation d'Alberto Contador qui ne rend pas les armes. L'Espagnol a tenté d'attaquer le maillot jaune Christopher Froome lors de la dernière ascension. Tenace, on l'a vu sur la route et on l'entend dans ses déclarations.
Ah, c'est le vélo, hein. On allait très vite. Dans cette descente comme avant. On a fait ce qu'il fallait faire, on a essayé. Voilà, je suis tombé, j'ai quelques séquelles, mais j'espère que ça n'aura aucune répercussion pour le contre-la-montre de demain. Voilà, le tour n'est pas terminé et comptez sur nous pour assurer le spectacle comme aujourd'hui.
Alberto Contador avec Pierre-Yves Leroux tout à l'heure en direct de la ligne d'arrivée dans l'intégral tour sur RMC. La victoire d'étape évidemment pour le portugais Alberto Rui Costa. En athlétisme, une enquête a été ouverte aujourd'hui par le parquet d'Udine en Italie contre les athlètes jamaïcains convaincus de dopage, Asafa Powell, Sharon Simpson et le préparateur physique de Powell, le canadien Christophe Xuereb. Concernant nos Français, leurs chances peuvent augmenter, on l'a vu hier lors des futurs championnats du monde à Moscou, mais sont-ils à l'abri de ce genre de déboire? Pierre Feignan a posé la question à Gany Yalouz, le directeur technique national.
On est vraiment dans la prévention, dans l'accompagnement. Et je crois que tout ça, ça les aide aussi à prendre conscience qu'on ne boit pas n'importe quoi, on ne mange pas n'importe quoi, on fait attention à tout. Mais c'est de l'éducation. C'est limite être parano, malheureusement, mais il faut, quand on est sportif de haut niveau, il faut l'être. Même en France, hein, on est à l'abri de rien. Il faut discuter avec les athlètes. Vous savez, ils sont innocents et ils peuvent tout croire. Maintenant, ce n'est pas des athlètes dont je me méfierais, c'est plutôt de l'environnement.
Gany Yalouz, le directeur technique national en athlétisme, toujours un forfait de poids pour les mondiaux à Moscou à partir du 10 août. Le Kenyan David Rudisha, champion olympique et recordman du monde du 800 mètres, doit renoncer la faute à un problème de genou. En Formule 1, mauvaise nouvelle pour Jean-Éric Vergne. Le baquet laissé libre par Mark Webber semble s'éloigner pour le français car demain, aux essais libres à Silverstone, l'écurie Red Bull mettra à l'essai Daniel Ricciardo, le pilote Toro Rosso et équipier de Vergne. Il devient ainsi l'alternative pour le remplacement de Webber derrière Kimi Raikkonen. Enfin, la domination continue pour Franck Camas sur le Tour de France à la voile. Sur Groupama 34, il a remporté les trois régates côtières devant Saint-Gilles-Croix-de-Vie aujourd'hui et accroît son avance en tête du classement général. 19h12, l'heure de retrouver l'autre Tour de France sur les vélos et le bitume à Gap avec Christophe Cessieux pour l'Intégral Tour.
Effectivement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et même plus, puisque Virginie Fulpin prendra le relais avec toute la Dream Team pour évoquer évidemment ce Tour de France et cette troisième semaine qui est partie sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, avec cette étape entre Vaison-la-Romaine et Gap, on va tout de suite revivre l'étape. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui sur les routes du Tour. Plus que 1000 mètres pour Rui Costa pour remporter cette étape de prestige, la deuxième étape du Tour de France entre Vaison-la-Romaine et ici Gap. Rui Costa qui a lâché tout le monde dans la montée.
Il était une jambe au-dessus dans le groupe de 26 échappés du jour. Victoire de Rui Costa, le Portugais de l'équipe Movistar.
Ah, la carrière. Berto Contador
qui a chuté. Et le maillot jaune.
Et le maillot jaune aussi. Le maillot jaune qui a retardé Milreux. Il se relance, les deux hommes.
Il était dans la route Contador, c'est pour ça.
Oh là là, il n'a pas chuté, Froome a priori, mais il s'est fait peur.
A priori, exactement. Dans le même virage, on vous l'annonçait. C'est du grand spectacle. Chute d'Alberto Contador.
Et le maillot jaune qui est parti dans le champ. Il a au failli, même endroit, mais il a failli. Il est revenu.
Il a voulu éviter Contador.
Quoi, le Tour de France n'est jamais joué. Mais Chris Froome qui va rentrer à l'instant dans le groupe.
Christopher Froome qui s'est pointé à la hauteur d'Alberto Contador et qui lui a fait signe de la tête. Mais t'es complètement barré, mon gars, de descendre comme ça. Il lui a fait non de la tête. Effectivement, c'est Contador qui essayait de pousser Christopher Froome à la faute. Et Contador est allé tâter du bitume. Effectivement, le spectacle est partout.
RMC Intégral Tour.
Voilà, cette 16e étape remportée donc par Rui Costa. Une nouvelle fois, les Français sont passés à côté, pas loin, hein, puisqu'ils font 2e, 3e et 4e. On s'intéressera tout à l'heure et on s'interrogera notamment sur le manque de réussite des Français. Est-ce qu'ils courent intelligemment ces Français dans ce Tour de France? En attendant, on accueille toute la Dream Team réunie au grand complet, à commencer par le druide Cyril Guimard. Salut Cyril.
Bonsoir à tous.
Il n'y arrivera pas.
Je suis paralysé du bras gauche, c'est pour ça que j'arrive pas à appuyer sur le bouton.
Thierry Bourguignon, vous avez entendu sa douce voix. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
En pleine forme. Très bien. Lucho aussi est en pleine forme malgré la chaleur ce soir.
Je suis un peu exténué.
Tu es exténué. C'est vrai que tu es chaleur, mon pauvre.
Autant j'aimais la chaleur quand j'étais coureur, mais là, la voiture, heureusement qu'il y a la climatisation.
La clim, elle marche avec toi. Messieurs, donc revenons sur cette 16e étape qui a été une nouvelle fois de toute beauté. Franchement, on se régale sur ce Tour de France. On était un petit peu inquiet au soir de la première étape des Pyrénées lorsque Chris Froome a revêtu le maillot jaune. On se disait que le tour était plié. Mais il se passe des choses tous les jours et notamment cette passe d'armes, cette guerre de harcèlement mené par Contador et Crazy Gear, son coéquipier, dans la montée du col de Mans. Dernière difficulté de la journée aujourd'hui. Contador et Crazy Gear qui ont attaqué à tour de rôle, qui ont tenté de faire vaciller le maillot jaune. Alors ils ont attaqué dans la montée, mais ils ont également, en tous les cas Contador, attaqué dans la descente. Et cela, ça a provoqué un petit incident qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, puisque Contador lui-même a chuté et que Chris Froome, le maillot jaune de ce Tour de France, a dû mettre pied à terre. Il a pas vraiment chuté, Cyril, hein, mais enfin il est quand même descendu de son vélo et c'était exactement dans le même virage que celui où en 2003 Lance Armstrong avait fait un tout droit, on s'en souvient, dans le pré, avait fait un peu de VTT avant de récupérer la route, donc ce virage dans la côte de la Rochette, dans la descente de la Rochette, particulièrement dangereux. Donc pas de bobo, mais une guerre de harcèlement qui nous fait nous interroger ce soir. Cyril, est-ce que la seule solution pour Contador pour remporter ce Tour de France ne consiste n'assisterait pas finalement à faire chuter Froome? On peut se poser la question ce soir.
Non, faut pas se la poser. Elle est réelle. On souhaite pas obligatoirement une blessure, c'est évident. Mais la descente fait partie de la course. Il y a la montée d'école, il y a les traversées de patelins, il y a les ronds-points, il y a plein de pièges sur le Tour de France. Et à aucun moment il faut perdre sa concentration, s'évader de la course. Et Contador aujourd'hui n'a pas le choix. Dans les ascensions, il est battu. Bon, il l'a été à Aix-Trois-Domaines, il l'a été au Mont Ventoux, il l'a été contre la Monte. Il lui reste quoi? Il lui reste les descentes. Eh bien, il va les jouer là. Mais vous savez, ça s'est déjà fait, Tour de France qui joue dans les descentes. Vous avez un des meilleurs exemples, c'était le Tour 71, Ocaña à 7 minutes d'avance. Dans la montée du col de Mante, j'étais bien placé puisque moi j'étais échappé et j'ai été rejoint après le sommet par Merckx et Ocaña. On était sous la pluie, Merckx attaquait à fond dans la descente. Il a même raté lui aussi un virage, emmenant Ocaña à la chute, sauf que Ocaña ne repartira pas et Merckx gagnera le tour. Mais Merckx avait 7 minutes de retard. Merckx savait qu'il ne pouvait plus battre à la pédale Ocaña. Donc il lui restait quoi? Les descentes. Donc dans les descentes, tu attaques et tu essayes de pousser à la faute ton adversaire. Si tu descends mieux que lui et qu'il ne s'accroche pas, tu vas t'en aller, tu vas reprendre du temps. S'il essaye de s'accrocher et que techniquement il n'est pas à votre niveau, il va faire une faute, il va tomber. Sauf que là, c'était dans l'autre sens que ça s'est passé. C'est Contador qui est allé le premier au tapis en prenant le maximum de risques. Et Froome a réussi à éviter en passant ce qu'on appelle nous dans le jardin, c'est-à-dire dans le bas-côté. Il a déchaussé, il a failli tomber, mais il s'est arrêté et puis a réussi à repartir. D'ailleurs, en même temps que Contador, les deux sont repartis en même temps. Je pense qu'ils se sont fait une grosse chaleur tous les deux. Ça les a un petit peu calmés. Puis la descente, elle ne fait pas 15 km. Mais Froome est passé quand même à côté de la correctionnelle, comme Valverde avait perdu le tour sur une crevaison dans la grande étape des bordures.
Franchement Thierry, c'est une tactique ça, d'essayer de faire chuter un adversaire? Est-ce qu'on le dit dans le peloton par exemple? Est-ce qu'on dit, celui-là s'il allait au tapis, ça nous arrangerait bien la situation? Non, on ne dit pas comme ça.
On ne parle pas comme ça, mais franchement, quand on sait qu'on est échappé avec quelqu'un qui descend mal, et ben forcément on prend les risques dans la descente en se disant, il y a bien un moment où il va se faire peur dans un virage et il va me laisser partir. Et ça, c'est de bonne guerre. Comme dit Cyril, la course, c'est kilomètre zéro jusqu'à l'arrivée. Tant que la ligne n'est pas franchie, la course est bonne à prendre. En descente, en montée. Moi, je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, franchement, comme tu disais, on avait l'impression de s'embêter après
les démonstrations de Froome.
Chaque fois qu'il y a une arrivée en montée, Froome écrase un peu le tour.
Et si finalement on faisait que des arrivées en descente, Thierry, finalement?
Non, mais pourquoi pas des arrivées en descente aussi?
On se souvient, il y a quelques
étapes.
En Italie, il y a quoi? C'était il y a deux ans, Cyril, cette arrivée avec une descente très très technique où certains avaient fait des tout droits, avaient atterri dans les villas qui étaient juste en dessous, dans les parkings, il me semble.
Mais c'était ici à Gap.
Non, c'était pas à Gap.
Il y avait Vauclair qui était parti.
Vauclair était rentré dans le garage du gars.
Exactement.
Non, mais moi je suis pas d'accord avec vous.
Ah, t'es pas d'accord. Lucho est pas d'accord.
Lucho,
dans un monde de bisounours, il veut pas qu'on attaque les leaders dans la descente.
C'est normal, il descendait pas.
Et voilà.
Non, je suis pas d'accord avec vous sur la façon de courir de Contador. Contador, il a attaqué deux fois, trois fois avec Rosiger dans la montée. C'est pas pour détacher Froome. Ils savent très bien que Froome ne va pas se faire détacher dans la montée. C'était simplement pour essayer de reprendre du temps et faire craquer Mollema qui a tenu bon jusqu'au sommet, entre autres. Mais dans la descente, c'est pareil. Contador a pris des risques pour essayer de faire aussi prendre des risques à Mollema pour essayer de d'enlever Mollema de la deuxième place du classement général. Mais c'est pas pour faire prendre des risques à Froome.
Ils savent très bien
que Froome, il est indétrônable sur ce Tour de France. Il peut y avoir la chute, mais c'est surtout par rapport aux concurrents, aux adversaires de Contador et Kreuziger, à savoir Mollema. Contador et Kreuziger ne veulent pas voir de Mollema deuxième sur le podium à Paris dimanche prochain. Donc la prise de risque, elle n'est pas contre Froome, mais elle est contre Mollema. Peut-être voir Quintana derrière qui a priori descend pas si mal que ça. Et je dirais que le danger numéro 1 pour Contador, Kruziger et voir Mollema qui est deuxième au classement général, c'est Quintana avec la montée de l'Alpe d'Huez deux fois consécutive. Ça va faire très mal.
Sauf qu'il y a un contre-la-montre demain et qu'il faudra voir la performance de Quintana pour le classement général.
Mais ça peut être favorable pour Quintana parce qu'il y a deux bosses de 7 km avec un pourcentage.
On va en parler tout à l'heure.
Voilà. Mais ceci dit,
on ne va pas faire chuter Froome.
Pour revenir à Contador et sa prise de risque, c'est sur Mollema et c'est pas sur Froome.
Mais non, mais c'est les adversaires. C'est les adversaires.
La montée du col de Mans, ils essayent de faire sauter les autres. Mollema. Mais une fois que tu arrives dans la descente, c'est pas Mollema que tu vas faire, tu sais que Mollema il descend.
Oui, mais Mollema
à partir de ce moment-là, tu attaques le maillot jaune.
Oui, mais non, mais Mollema peut prendre des risques dans la descente. Regarde, Froome, il a failli se casser la gueule. Mollema aurait pu faire de même. Oui, il aurait pu faire de même.
Mais
ça n'a pas été le cas. Par contre, l'erreur tactique de l'équipe de la Sky, c'est de ramener sur le groupe Mollema Contador, alors que c'est Contador qui a failli faire chuter Froome. Froome, il aurait dû dire à ce moment-là, Contador, mon vieux,
là, tu te débrouilles.
Mollema, il est en train de prendre du temps sur toi, tu te débrouilles. Moi, j'ai mon matelas, j'ai suffisamment d'avance sur Mollema au classement général, maintenant tu te débrouilles.
J'ai pas compris
la réaction de l'équipier.
Je suis d'accord avec Lucho, Porte
rouler pour Froome et de sortir Contador.
Oui, Thierry, rapidement, on va écouter ensuite les acteurs de
cet après-midi. C'est encore plus grave. Mais pourquoi les Sky s'obstinent à aller chercher Contador dans cette bosse?
Mais oui.
Et ils essaient de suivre Contador dans la
guerre
descente.
La guerre des chefs.
La prise de risque elle est totale on peut perdre un tour comme ça. Voilà.
Chris Froome ne court peut-être pas avec beaucoup de discernement moment. Il essaye de boucher tous les trous. Il essaye de ne pas se faire décrocher dans la descente.
J'ai l'impression qu'il a peur.
On va tout de suite écouter Alberto Contador nous parler de cette passe d'armes de cet après-midi, de cette chute donc qu'il a jetée à terre dans la descente de la Rochette.
La chaussée était vraiment très détériorée, sinon le vélo ne m'aurait pas échappé comme cela. J'ai pu repartir sans souci, il ne fallait pas perdre de temps. Je vous préviens que pour moi, rester dans le peloton tranquillement, ça ne m'amuse pas. Alors à chaque fois qu'il y aura une occasion, je tenterai ma chance, je le ferai jusqu'à la fin, et il n'y a que le résultat à Paris qui compte.
Voilà, la volonté d'Alberto Contador, les mots sont forts, il ne va rien lâcher jusqu'à Paris. Nous, félicite.
J'aimerais qu'il soit plusieurs à faire ça comme ça.
Mais il faut aussi les gens.
Non, mais Quintana, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il attend? Il attend pas trop des arrivées au sommet.
Quintana, il a explosé l'autre jour quand Froome a attaqué.
J'ai l'impression qu'il est limité. On verra après-demain.
Tiens, Nicolas Porta, lui, c'est le directeur sportif de Chris Froome. Est-ce qu'il a eu peur lorsqu'il a entendu que Chris Froome était tombé tout à l'heure dans la descente?
Oui, bien sûr, c'est une frayeur, c'est une chute. Donc forcément, finalement, on a le temps de ne pas avoir vraiment très peur. C'est-à-dire quoi, deux secondes, le temps de voir que hop, il remonte sur le vélo et la guerre continue. C'était prévu. On s'était dit chaque millimètre de route est dangereux. Cette descente, c'est dangereux parce que tout le monde le sait, évidemment, parce que c'était la descente de Bellocchi et tout ça, donc forcément, c'est pas une surprise. Voilà, sur le tour, c'est un stress, une tension qui est absolument inégale par rapport aux autres événements. Donc voilà, c'est à tout moment qu'il faut être vigilant.
Exactement, vigilance totale à tout moment, le Tour de France peut se perdre. Nicolas nous appelle au 32-16, il nous appelle de Haute-Garonne pour intervenir sur le débat. Bonsoir Nicolas.
Ouais, salut, comment ça va?
Eh ben ça va pas mal.
Salut Nicolas.
Bon alors Nicolas, c'est plié ça ou ils vont essayer de le faire chuter, l'ami Froome?
Non, je crois pas. Je pense pas qu'il puisse en arriver là. À mon avis, le tour il est joué depuis la montée à Créteil. Mais quand Froome il accélère et qui distance tout le monde, je crois que le tour il est déjà joué à ce moment-là. Bon, après on peut toujours avoir un petit peu espoir en attendant l'étape de montagne qui venait. Mais hier on voit bien dans le Ventoux, il reste tranquille la première moitié, puis il accélère, il part en sprint sur les.
Mais Nicolas, tu nous casses le moral là, tu nous casses le moral. Nous on veut qu'il y ait de la bagarre, on veut que le tour peut-être se renverse. Alors évidemment on va pas souhaiter loin de là la chute des Chris Froome, mais non, ne nous dis pas que le tour est joué. Tout peut arriver, on l'a entendu dans les mots de Contador, il peut se passer encore des choses d'ici l'arrivée. Il y a des étapes énormes qui arrivent. Il y a le contre-la-montre demain. Il y a évidemment cette double ascension de l'Alpe du hasard. Moi, je suis pas d'accord avec toi. En tous les cas, merci d'avoir appelé, mais on va devoir s'interrompre quelques instants.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France. Christophe Cessieux.
Toujours en direct de Gap ce soir au terme de la 16e étape du Tour de France. L'entrée dans les Alpes aujourd'hui, ce n'était pas une étape de haute montagne mais une étape de moyenne montagne avec pas mal de bagarres. On l'a vu dans le peloton, on en parlait il y a un instant. On va continuer d'ailleurs sur ce débat en se posant la question de savoir si Froome court avec discernement dans ce Tour de France. On le disait, c'était le thème d'un de nos débats l'année dernière ou il y a deux ans, Cyril. Le maillot jaune rend fou parfois et fait prendre des risques inconsidérés. Est-ce que tu considères aujourd'hui que Chris Froome a pris des risques inconsidérés en voulant à tout prix répondre à toutes les attaques de Contador dans la montée et ensuite aussi en essayant de boucher les trous dans la descente, en essayant de ne pas se mettre à la faute. Il s'est mis à la faute lui aussi.
Dans l'ascension, non, il n'y a pas de risque à prendre, on va dire, de risque physique, sauf éventuellement peut-être d'avoir une défaillance, de rentrer dans le rouge, mais bon.
En montée, il ne rentre pas souvent dans le rouge. Hein.
Il ne rentre pas souvent dans le rouge. Contador a fait quelques accélérations. On l'a déjà évoqué à ce moment-là, c'était plus par rapport à ses adversaires directs au classement général, plus que contre le maillot jaune. Dans la descente, en revanche, tout pouvait se passer. On le sait très bien dans une descente. Et Chris Froome, on a très bien vu que il ne voulait pas quitter la route de Contador, mais sans arrêt il y avait Cruziger qui essayait de passer et il ne voulait surtout pas que Contador et Cruziger se retrouvent en première et deuxième position, moyennant quoi il y aurait eu une cassure qui aurait été faite et Contador s'en allait. Donc c'est vrai que sur plusieurs virages on l'a vu venir au freinage pour garder la deuxième position dans cette descente, ce qui est techniquement bien, mais dans une descente de ce niveau là est-ce qu'il faut aller jusque là pour prendre des risques? J'ai envie de dire heureusement qu'il avait laissé un peu de champ à Contador avant ce virage dangereux puisqu'il était à 3 ou 4 longueurs, ce qui lui a permis d'éviter de percuter Contador, de partir sur la gauche, de partir ensuite sur le bas-côté, d'avoir beaucoup de difficultés pour garder l'équilibre, mais finalement il a réussi à le garder. À mon avis, il aura peut-être un petit peu mal aux adducteurs demain matin, mais ça ne sera pas très grave. Alors, on est limite au niveau des risques qu'il faut accepter quand on a le jaune.
Ouais. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus, il faut garder la tête froide.
Tiens, si quelquefois
Chris Froome qui vient de déclarer à nos confrères d'ITV, la chaîne anglaise, en parlant de Contador, je pense qu'il commence à être désespéré. Il prend des risques non contrôlés et Chris Froome qui complète en espérant, en disant espérer que les coureurs ne prendront pas de tels risques dans la descente de Sarenne. Georges Quirino nous rejoint.
Bonjour.
Salut Georges, il est allé aux interviews, aux réactions.
C'est juste pour vous dire qu'Alberto Contador a plus ou moins répondu finalement à Chris Froome dans un communiqué. Alors il prévient que ses jambes vont de mieux en mieux et qu'il espère faire du spectacle dans les dernières semaines qui arrivent, dans les derniers jours qui arrivent. Je ne sais pas si je vais gagner ou pas, mais je peux juste vous dire que les gens derrière leur télévision vont adorer.
Ah là là, j'adore. Merci Alberto.
Et merci Alberto.
Ah, El Pistolero, il est fidèle à sa réputation.
Alberto.
Bon, Lucho,
il a intérêt d'être plus saignant dans ses attaques dans l'Alpe d'Huez.
Ah, mais oui, mais après,
c'est pas grave. Lucho,
mais est-ce que tout ça, c'est pas du marketing?
Mais bien sûr.
Et là, on est en train de.
Et là, on rentre dans le jeu.
On fait du Twitter et du Facebook.
Le marketing, tout à l'heure, quand Chris Froome a failli aller dans le ravin, c'est le marketing.
Maintenant, on est dans la guerre.
C'était du marketing, ça.
Non, mais ça, on est dans le communiqué là maintenant. Non, mais
après le ravin,
on peut pas gagner le tour, donc on va essayer de le gagner.
Non, mais pour l'instant,
Contador, il a
cherché la sympathie.
La guerre des mots.
En disant, moi je suis un guerrier.
Pour l'instant, Cyril, dans les combats de boxe, c'est la même chose. Mais dans les combats de boxe, ça a lieu avant le début du combat. Mohamed Ali,
à l'époque de Cassius Clay,
qui intimidait ses adversaires en conférence de presse.
C'est le principe de la boxe.
On a l'impression qu'ils sont à la pesée là maintenant.
C'est la guerre des mots.
Et Cyril, mais Froome, c'est pareil. Je te dis,
c'est la guerre des mots.
C'est comme ça, on est dans
Thierry,
un monde de communication.
Thierry Contador, il est troisième au général. Mais tu verras qu'il ne sera pas sur le podium à Paris.
Attends, on se croirait dans les primaires d'un parti politique.
Ah non, mélange pas la politique et le sport, s'il te plaît.
S'il vous plaît, les débats d'hier soir ont déjà été assez musclés comme ça.
Ouais.
Messieurs, hein, pas à l'antenne, mais au bord de la piscine.
Au bord d'une merguez.
Bon, Thierry, toi, tu penses qu'il court avec discernement et qu'il ne faut pas qu'il réponde à toutes les attaques, il faut qu'il laisse aller, qu'il laisse venir.
Moi, je serais à la place de Froome. Franchement, j'aurais pas pris le risque.
Moi, je
dans une descente comme
j'espère.
Ça, qui était connue pour être dangereuse. Déjà, tout le monde le savait, mais tout le monde s'est lancé comme des malades dedans. Et d'autant plus que lui, il a quand même un matelas de 4 minutes d'avance.
Non, pas comme des malades, comme des guerriers. Ça, j'aime ça.
Ah, ouais.
Mais tu dis aussi que
on avait des guerriers dans la descente.
Mais ouais. Contador est un guerrier. Parce que moi j'adore.
C'est pas un guerrier, sûr, il va au charbon.
Ouais, il est un peu malade. Moi, je trouve qu'il est malade.
Non, mais Froome,
à quelque part,
il veut le boss aussi, il s'imposer.
Il manque de discernement.
Froome, il va leur répondre demain, il va leur mettre une tôle encore, et puis comme ça, on n'en parle plus.
Alors,
à la limite, entre les deux montées d'Alpe d'Huez, la descente, il va la faire, tu vois, il va pas prendre de risque.
Il veut bâcher, Lucho. Il en a marre de ce Tour de France. Il veut que.
Mais non, mais il court pour la deuxième et troisième place, et vous le savez très bien. Alors, donc, arrêtez de dire que Froome.
On veut y croire, on n'est pas désabusé comme toi.
Bien sûr. Mais alors, on a l'impression que vous voulez que Froome chute dans une descente et que.
Et alors,
il y a de la bagarre aujourd'hui.
Contador. Moi, personnellement, j'aurais envie qu'il lui reprenne un peu de temps. Et que tout se joue dans la dernière étape, évidemment.
Il contrôle tout.
Mais si, Froome, il contrôle tout.
Mais bien sûr, il contrôle tout, mais il peut se casser la gueule pareil.
Monter dans le final, c'est pareil.
Messieurs, on change de débat. Parce que celui-ci, on verra. On a encore quelques jours pour en débattre. Parce que la guerre ne fait que commencer, la guerre des mots a déjà débuté, la guerre des gestes et des attaques et du harcèlement va se poursuivre.
Alors, si on était sur le vélo ou encore, après hein, Cyril.
Ouais, on va.
Ah, t'attaquerais dans les descentes.
Tu fais les descentes.
Alors, Lucho, Cyril,
on se met dans le coup,
fais les descentes.
S'il vous plaît. Mais Lucho, si tu étais sur le Tour de France aujourd'hui et que tu étais français, après 16 étapes, toujours aucune victoire. Qu'est-ce que tu dirais? Ça t'est arrivé ça, d'être sur le Tour, aucune victoire française?
Je suis devant classement général, donc.
Oui, non, mais je te parle. Je rigole. Est-ce qu'il court intelligemment?
Tu regardes Riblon aujourd'hui, il a couru intelligemment. Le problème, si tu veux, c'est qu'à la pédale, on en parlait l'autre jour, Ruiz Costa, il était au-dessus du lot aujourd'hui. Même Ruiz Costa aurait pu jouer le classement. Oui. Rui Costa, ouais. Enfin, moi, c'est un Portugais.
Alors.
Ouais, mais bon. Il aurait pu jouer. S'il n'avait pas attendu Valverde l'autre jour, il aurait pu jouer le classement général. Donc, c'est vrai qu'il était au-dessus du lot dans cette échappée. Ça prouve qu'il était vraiment en super condition. Donc, voilà. Riblon, il a joué sa carte. Il a bien joué. Intelligemment, malheureusement, c'est que, à la force, du Jarret, il n'était pas du tout pareil que Rui Costa. Donc,
Les Français ont bien joué. Les Français qui étaient devant ont bien joué.
Ouais, on peut pas dire.
Il a attaqué où il fallait.
C'est fini.
Il manquait de force ou manque de chance.
Là aujourd'hui, c'est pas un manque de chance.
La chance, ils l'ont eu en étant devant.
Voilà. Exactement.
Donc voilà, ils ont pris la bonne.
Ils n'avaient pas la jambe
face à Rui Costa, c'est tout. Voilà, regarde Riblon, il fait deuxième.
C'est simple, en 5 km même pas.
Il a pris
50 secondes, puisque moi j'ai chronométré au sommet. 50 secondes, à l'arrivée, il a 42 secondes. Donc, même en courant le plus juste possible, tu peux pas aller chercher un type qui te met 50 secondes en 4 bornes. Ça n'existe pas. N'oubliez pas que quand il est obligé d'attendre Valverde, n'oubliez pas qu'il est 9e du classement général.
Là, il y a une grosse erreur.
Il y a une erreur monstrueuse.
Le potentiel
de Rui Costa, c'est quand même un mec pour le top 5. Par rapport à Riblon, par rapport à Janson, par rapport à Coppel, les trois Français qui n'ont pas fait de faute, l'autre il est parti à la pédale, tu peux pas filer, point.
Bah d'ailleurs, Coppel était dans la roue.
Il était même sorti juste un petit peu.
Donc à partir de ce moment-là,
tu n'as pas de regrets à avoir. Je suis désolé. D'accord. Tu peux pas avoir de regrets.
Non, mais il y a aucun regret de la part de Riblon. D'ailleurs, Riblon l'a dit.
Tous les Français, j'ai pas pu suivre. 8 sur les 26.
C'est vrai qu'on a commencé à se dire que là, c'était bon. Il y avait un tiers de Français dans ce groupe.
Enfin, regardez qui il y a derrière. Vous avez Philippe Gilbert, vous avez Cameron Meyer, vous avez Peter Velits. Attendez, vous avez Astar Loza. Dans tous ces coureurs. C'est des coureurs qui ont un nom, c'est des coureurs qui ont un potentiel. Ils ont explosé.
Tiens, on va écouter Blaise Cadré justement, qui lui a tenté de partir avant l'ascension du col de Mans. Sans doute se doutait-il que dans l'ascension ce serait trop dur pour résister au Cador. On l'écoute, Blaise Cadré, la formation AG2R.
On a essayé de faire le maximum pour aller chercher la gagne. On a joué très collectif avec Christophe, surtout en début d'étape, puis sur la fin on a pas mal discuté. C'était avec les consignes de Julien Jordi. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis voilà, donc nous, on s'est mis vraiment en position pour gagner. Ça ne l'a pas fait, mais bon, c'est comme ça, c'est le vélo. Il faut un vainqueur et des perdants, donc voilà.
Et malheureusement, en ce moment, les perdants sont les Français qui n'ont toujours pas décroché la moindre victoire d'étape depuis le début de ce tour. Et le problème, c'est qu'on se rapproche de Paris. Antoine nous appelle au 32-16. Il nous appelle de Gironde. Bonsoir, Antoine.
Oui, bonsoir, la Dream Team.
Bon, alors, salut, Antoine. Les Français, qu'est-ce qui leur manque cette année?
Alors, qu'est-ce qui leur manque? Déjà, il leur manque des jambes pour les stars françaises qu'on a vues les années passées. Donc, par exemple, Ben Pinot qui est out, que ce soit Vauclair ou Roland aussi, qui sont un peu moins fringants que l'année dernière, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, par exemple. Nos stars sont pas vraiment en forme pour ces 3 semaines. Et les autres, par contre, ben, ils sont à leur niveau, quoi. Ils sont toujours 2e, 3e, c'est très bien, mais il n'y a qu'une place pour le premier.
Et ouais. Et malheureusement, c'est vrai que c'est
bien résumé.
Ouais, ouais, non, mais c'est tout à fait bien résumé. Un bon résumé, c'est Antoine. Simple. On t'intègre dans la Dream Team.
Et par contre, il y en a un qui a pété le boulard, mais qui a pété dans la tête, c'est Roland.
Oui.
Et il a perdu exactement. Le maillot à poids au pied du Ventoux. Il est plus dans la course,
Du tout dedans. Ouais, ouais. Et la dernière semaine va être très longue pour lui.
Comme Thibaut Pinot qui lui a abandonné ce matin, mais qui avait déjà abandonné dans sa tête depuis plusieurs jours.
C'est le syndrome français.
Mais c'est qu'il s'était mis dans la tête.
Il s'était mis dans la tête de jouer le général.
Au moins une étape, le général.
Le problème, c'est que quand on a un échec, on survit pas à l'échec. On s'enfonce encore plus, alors qu'on pourrait éventuellement se lever.
Ils ne sont pas tous comme ça. Si t'as pas les jambes, t'as pas les jambes. Tu survis, mais bon, tu traînes ta douleur jusqu'à Paris, c'est tout. Hein. Ouais. Et surtout que la dernière semaine, elle est coton.
Mais c'est vrai que quand Thomas Vauclair, Pierre Roland et Thibaut Pinot n'ont pas le niveau, derrière, bon, il y a de bons coureurs. Pierrick Fédrigo également, qui n'est pas au niveau de ces dernières années. Hein.
Il n'est pas dedans.
Sylvain Chavanel, lui, a le niveau. Hier, il a fait un raid avant-hier. Aujourd'hui, il a bien tenté de partir.
Jérôme Pinot, il est au niveau aussi. Sauf qu'ils ont des leaders à défendre toute la journée.
Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas jouer leur carte personnelle.
Mais moi, je crois que le problème de nos Français, de ceux qu'on a présentés en toute légitimité au niveau des leaders, c'est-à-dire Pinot et Roland. Pinot, bon, on connaît les raisons pour lesquelles Pinot il a pété le nerf de la tête, qu'il a sauté. Ça ne remet pas en cause ses vraies qualités fondamentales. Bon, sauf qu'il faut qu'il travaille dans les descentes. Mais Pierre Roland, il était parti pour le général. Il bifurque sur le classement de la montagne. Et dans l'étape du Ventoux, il perd tout. Donc d'un seul coup, il a le même syndrome ou le même problème que Pinot dans la tête, ça lâche. Parce qu'il se rend compte qu'un, il n'aura pas le maillot à l'arrivée, le maillot à poids, et qu'il ne va pas gagner d'étape parce qu'il n'a plus le mental pour ça, et qu'au classement général, il n'y est plus non plus. Quoi.
Bredouille le tour.
Bredouille pour nos leaders et pour tous les Français. Pour l'instant, aucune victoire d'étape. On espère que ça ne va pas être comme ça, comme en 1999. C'est la dernière fois.
On est mal barré. Hein.
On est mal barré, ouais.
Parce que là, il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France. Christophe Cessieux.
Nous sommes à Gap ce soir au terme de la 16e étape du Tour de France, remportée par un Portugais qui se nomme Rui Costa. Le maillot jaune reste sur les épaules de Christopher Froome, mais il s'est fait quelques frayeurs aujourd'hui, Christopher Froome. S'en fera-t-il également demain? Eh bien, nous allons voir ça dans quelques instants, puisque nous allons évoquer les paris sur RMC comme tous les soirs.
Les paris RMC. Tour de France.
Et Monsieur Benji est là. Bonsoir Benji.
Bonsoir à tous.
Bon, alors là, on peut pas dire que nous fûmes brillants aujourd'hui, non. Avec des billets de partout.
Ouais, finalement, celui qui s'en sort le mieux, c'est Lucho. Il avait joué seulement 10 euros. Tous les autres, on a tous pris 20 euros dans les dents.
Et ben voilà. Et oui, parce que en plus, Lucho a failli avoir la gagne. Hein. À 40 secondes près, là, c'était le gros coup. Hein.
Effectivement, personne n'a frappé fort aujourd'hui.
Non.
Oui, alors le classement, ça donne quoi?
Tu restes en tête, Cyril, mais tu n'as plus que 23 euros. Virginie Fulpin est passée en négatif également. Elle arrive au même moment dans le studio. Donc les maillots à poids le maillot à poids sur les épaules de Christophe Cessieux, le maillot vert, le maillot jaune sur ceux de Cyril Guimard.
Elle fait la manine ce soir, Virginie, ou non?
Absolument pas.
Toujours, tu sais.
Bon, Virginie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas eu le nez, hein, pas eu personne. On avait pourtant.
Moi, je me suis dit, voilà, je vais faire comme tout le monde, je peux pas non plus gagner tous les jours, donc je gagne pas non plus. C'est ça.
Oh, le bel alibi.
Le bel alibi. Qui avait donné Millard, puis Nicolas Roche, hein, toujours dans les îles britanniques, évidemment.
Ils sont où là?
Moi, j'étais vert de rage. Un des premiers lâchés, c'était quand même un coureur que j'avais cité, c'était De Gendt, qui a marché dans toutes les échappées où il a été,
aujourd'hui.
À la ramasse.
Ouais, parce qu'il savait qu'il fallait se relever.
Mais je me demande si son directeur sportif ne l'a pas informé et qu'il fallait me planter. Oui.
Ouais. Alors, messieurs, on va s'intéresser à cette messieurs dames, puisque Virginie est avec nous, elle va nous parler de cette 17e étape aussi avec nous. 17e étape, donc ce contre-la-montre demain entre Embrun et Chorges. 32 km de contre-la-montre, c'est pas énorme, mais il faut savoir qu'il y a 14 km de montée quand même. Hein. Et là, c'est pas rien. Benji, parle-nous des favoris, en tous les cas les favoris des coteurs.
Alors, on va mettre ça au singulier. Christophe, il y a un grand favori, c'est Christopher Froome. Il est à 1,22. Du coup, derrière, toutes les cotes valent le détour. Tony Martin est à 11, Richie Porte est à 16 et Alberto Contador à 20. Donc moi, je vais jouer Contador à 20 pour la cote.
Tu vas jouer Contador à 20. Virginie, tiens, on va te demander ton avis tout de suite. Est-ce que tu... Ouais, Chris Froome, évidemment.
Bah voilà, Chris ouais. Froome. Mais en fait, tu joues à ma place à chaque fois, Christophe. Non, Chris Froome.
Chris Froome.
Même si, apparemment, son directeur sportif a dit qu'il courrait à 98%,
attends, c'est attends, ça attends. Vas-y, Paris, ensuite, je vous fais écouter une interview.
Eh, hey, toi, t'es Mariol. Oh. Merci, Virginie, parce que là, c'est vraiment un enfoiré.
C'est un délit d'initié.
Voilà, c'est exactement. C'est pour ça que je tiens tout le monde informé pour qu'on soit à égalité.
Non, c'est un délit d'initié. Il ne peut donc pas jouer ce soir et il perd 20 euros.
Mais 50 euros.
Bon, allez. Je vais vous le faire écouter, puisque vous me demandez tous avec gentillesse, notamment Virginie. Merci, je te revaudrai ça. On va écouter tout de suite Dave Bransford, le manager de la formation Sky. Qu'est-ce qui va se passer demain pour Chris Froome? La réponse du manager.
50 montres différents, profil. Il y a deux montées et puis deux descentes, un assez technique. Alors nous, on ne prendra pas de risque quand même. Il faut poser une question stratégiquement. Est-ce qu'il faut aller au bout de soi-même ou est-ce qu'on peut rester assez dans soi-même un peu pour garder les jambes pour les trois étapes après qui sont très très difficiles. Je pense que c'est stratégique. Au lieu d'aller à 100% et vraiment, vraiment profond dans soi-même, d'aller à 98% peut-être, ça fait des différences pour le matin de lendemain.
Et il nous prend pour des lapins de 3 semaines ou quoi?
Hey, mais tu n'y crois pas, Thierry. Mais non, la guerre des communiqués, la guerre des déclarations continue.
Ah mais oui, non, mais il est trop fort. Et cet après-midi, il n'a pas pris de risque. Et puis demain, il n'en prend pas non plus. Hein. Non mais arrêtez. Non,
on est dans la guerre des communiqués, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Ah,
les petites phrases sont parties, les petits mots sont partis, les mots doux, les mots acides.
Ah, eh oui, ça va finir en bagarre. Ça va finir en bagarre.
Ça va mal se terminer cette affaire, moi je te le dis.
Est-ce que tu es convaincu, Cyril, de ce que dit Dale Boisford? On ne va pas prendre de risque. Est-ce que Chris Froome demain? Alors, il y a non seulement la prise de risque, il y a aussi évidemment la suspicion. Si demain, non, mais si demain,
ah, ça y est, elle a revenu celle-là.
Si Chris Froome,
le dossard 231.
Non mais si Chris Froome demain met encore 3 minutes à tout le monde, il sait bien que ça va repartir de plus belle. La flambée va repartir, je sais pas.
Mais oui, le 231 va gagner.
Ouais.
Non, mais soyons sérieux.
Mais oui, mais bon, laissons ceux qui... bref, le discours de... Il colle parfaitement à de la stratégie de communication. Dans un contre-la-montre, on ne lève pas le pied, ça n'existe pas. Il y en a même qui ont prétendu déjà qu'au Mont-Saint-Michel, il avait levé le pied pour perdre 20 secondes sur Tony Martin dans les 4 derniers kilomètres. Quand j'ai entendu ça, je me suis demandé si je n'étais pas à 4 grammes.
C'est pas un journaliste, Christophe Cessieux,
Christophe, il n'aurait pas osé dire ça.
Il a dit lever le pied.
Non, c'était dans la sémantique qu'il y avait.
Ça se voyait pas à la télé, hein, en tous les cas.
Non, on ne part pas dans un contre-la-montre. Enfin, j'en ai fait quelques-uns et j'ai suivi quand même, il faut quand même le dire, 11 victoires dans les grands tours. On ne lève jamais le pied dans un contre-la-montre. On ne sait pas ce que le lendemain, il va pouvoir se passer. Donc, s'il peut prendre 3 minutes demain, il prendra 3 minutes, c'est tout. Mais... on prend une petite réserve, un petit alibi au cas où il serait pas trop bien. Donc, on vous avait dit qu'il était à 98%. Mais vous allez voir, demain, ça va aller mieux. Bon, allez, arrêtons les petites phrases. Demain, pour moi, le favori, et je vote, et je signe, Froome. Il y a quand même deux montées de 7 km, 6 km et demi, 7 km, à plus de 6%. Alors, c'est pas dans les descentes que ça va se faire, hein.
Voilà qui est envoyé. Avec ça, allez parier sur quelqu'un d'autre demain. Tiens.
Je suis tout à fait de l'avis de Cyril.
Oui, d'accord.
Mais oui, mais le problème, c'est que miser est la même chose que Cyril.
Eh ben voilà, tu gagnes rien.
Je reviens donc pas sur toi.
T'as qu'à mettre un petit billet sur Cyril. Non, parce que moi, il m'a convaincu, donc je suis prêt à mettre un billet sur Cyril.
Non, mais moi, je suis beau joueur.
Oui.
Oui. Cyril joue
Froome. Toi, t'es bon joueur.
Non, mais non, non.
Oui. Mais c'est la guerre des mots ou quoi?
Non, mais je veux dire, Cyril joue Froome. Bon, ben écoute, si on veut vraiment revenir sur Cyril, il faut savoir prendre des risques, d'accord?
Ouais.
Donc je vais jouer Tony Martin.
Ouais.
Je sais que je me plante.
Tony Martin.
Je le sais. Ouais. Non, je dis aux auditeurs qui m'écoutent,
attention,
ne m'écoutez pas moi,
il sera pas
écoutez
très loin.
Cyril.
Mais je veux avoir la vie de Cyril sur Tony Martin, justement.
Eh bien, Tony Martin, j'ai une petite appréhension quand même.
Il n'est pas très loin.
Non, mais le contre-la-montre se fait d'est en ouest. Et on sait qu'il y a toujours du vent d'ouest en est dans cette vallée.
Il y en aura sur la fin
pour
les derniers coureurs.
Je peux finir.
Mais surtout qu'ils mangent.
En plus, ils mangent. Et qu'en règle générale, le vent se renforce en fin d'après-midi et Tony Martin part dans les premiers. Donc c'est jouable pour Tony Martin.
Oui. C'est pour jouable, ça que je joue Tony Martin.
Sauf que je pense que les deux montées sont peut-être un peu trop longues pour lui.
C'est deux cols de deuxième catégorie quand même. C'est pas rien.
C'est 7 km quand même. 7 km à 6%.
Donc Cyril, tu restes sur Froome quand même?
Moi je reste sur Vroom Vroom.
Tony Martin, il a combien, Benji?
Il est à 11.
Ouais, voilà, c'est pas mal parce que là, je peux redevenir en tête, là, par contre.
Exactement.
Non.
Voilà, donc je prends Tony Martin.
Donc, Virginie, on a entendu Chris Froome. Toujours convaincu, Virginie? Pas de regrets?
Même à 98%, je pense que ça marche encore, ouais.
D'accord. Thierry?
Depuis que j'ai entendu l'interview de son manager, je pense que je vais le jouer. Ça, c'est clair. Je peux dire que Froome Froome va être dans les tours. Et
par contre, si
c'est
je
un
perds,
chrono quand même pour
je
lui.
Je finis dernier pour l'instant de la Dream Team.
Et ben moi, je vais jouer Chris Froome. Voilà. Je suis convaincu,
je suis convaincu
par les arguments du druide, même s'il a essayé de nous les envoyer sur notre
je vous ai donné toutes les pistes de réflexion.
Et tu veux essayer de nous enfumer surtout.
Ouais, c'est ça, on le connaît. Tu sais que je vais te remettre mon maillot jaune que m'a offert hier Thierry Bourguignon.
Non, garde-le jusqu'à demain soir. On sait. Ah ben non, t'as joué la même chose que moi.
Non, je vais pas le prendre.
Attendez les gars, j'ai bien commencé le tour. C'est vrai qu'à mi-parcours, je me suis cassé la figure, mais je vais vraiment bien finir.
Dans une descente.
Tous vous niquer
messieurs. Il y a de la descente toute la semaine.
Ouais.
Tu peux pas faire un écart.
Maillot, c'est pas possible.
C'est toi.
Merci en tous les cas. Merci à Cyril, merci à Lucho, merci à Thierry. On se retrouve demain évidemment.
Salut Virginie, à demain.
Non,
c'est
bien essayé.
Virginie, il y a 70 bandes de transfert, il y a 1h30 de route. Parce que là, on passe par la montagne.
Et puis alors, un jour, il y a Merguez parti, après il y a du transfert.
Virginie, le problème, c'est qu'il y a 70 km et ensuite il y a 70 km pour trouver la première boîte de nuit pour Lucho. Et ça, c'est évidemment, ça commence à peser dans les pattes.
Ouais, mais on va pas y aller. 20h là dans la boîte
sur internet
de nuit.
Partout, il y a rien.
Faut faire une rêve partie au milieu de nulle part. Quoi.
Et t'es pas invité
ce
soir, Lucho?
Comment?
T'es pas invité de ce soir?
Non. Si j'aurais pu dormir à Gap, mais je veux pas lâcher mon équipe parce que j'ai des amis qui habitent à Bac.
Très bien, je vous laisse donc entre les mains expertes de Virginie Fulpin pour la suite. Et c'est pas fini, Virginie.
Ça a pas l'air. En plus, ils sont très en forme après la merguez partie d'hier. Ça avait l'air sympathique. Ça vous a mis de bonne humeur tout ça. Donc Luc Leblanc, Thierry Bourguignon sont avec moi et vous au 32-16 jusqu'à 20h30. Je vous le rappelle, vous pouvez aussi utiliser Twitter avec le hashtag RMC Tour pour poser vos questions et faire vos remarques à notre Dream Team. À partir de 20h30, ce sera notre page football. On va revenir sur la signature d'Edinson Cavani au PSG. Pablo Correa sera notre invité. Uruguayen, lui aussi, l'ancien coach de Nancy et David Antonin Gaillard suite prêt la carrière de Cavani. Il va nous en dire un peu plus sur le nouvel attaquant parisien. On entendra aussi Nasser El Khelaifi, le président du PSG. Et puis on fera le tour des infos du jour sur le marché des transferts. A tout de suite.